Voilà, bonjour à chacun chacune, en particulier ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Merci Paul pour cette introduction. Et donc nous allons ce matin donc continuer notre série sur le réveil. Vous savez hein, qu'on est dedans depuis le début de l'année, hein, épisodiquement, hein, ce n'est pas tous les dimanches. Et qu'on était parti sur ce verset, hein, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, dans Romains 13, qui dit ceci: « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Et ces mots prennent une résonance particulière avec les événements d'hier, hein, je trouve. Hein. « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Alors, je propose simplement compris déjà. Merci notre Dieu pour ce matin, pour déjà ces beaux chants que nous avons pu te chanter. Merci aussi pour voilà, tous ces enfants qui étaient parmi nous, qui ont rejoint leur classe. Seigneur, parle-leur aussi particulièrement. Nous venons de lire ce verset où Paul nous encourage à nous réveiller enfin du sommeil. Et Seigneur, je te prie que chacun de nous, là où nous nous trouvons ce matin, puisse être saisi d'une manière particulière. Nous ne voulons pas nous contenter d'une petite vie qui est centrée sur nous, mais nous voulons vraiment avoir une vie qui t'honore. Seigneur, que ce soit vraiment le désir de chacun ici, une vie centrée sur toi, que ce réveil personnel puisse se transformer en réveil communautaire. On avait parlé aussi d'une avalanche, Seigneur, que déjà fait de nous des boules de neige qui ensemble vont produire cette avalanche. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit ce matin et viens vraiment être parmi nous et éclairer nos cœurs. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc la dernière fois, dimanche dernier, vous avez vu avec Michael se repositionner sur le bon combat. Hein. Il y a une exhortation qui vous a faite, hein, j'étais pas là, mais il m'a un peu raconté sur le fait d'utiliser chaque... de la meilleure façon, le temps que nous avons à disposition. Il y a un peu plus longtemps, là, on avait parlé de la trilogie nécessaire au réveil. On était dans 1 Samuel 7, et c'est un événement où les Israélites reviennent au Seigneur. Hein, ils crient à Dieu, ils reviennent à lui de tout leur cœur, et ils confessent leurs péchés. Et ensuite, on voit Dieu intervient d'une façon incroyable. Il y a le tonnerre qui gronde, il y a les ennemis qui sont mis en fuite, hein, les Philistins. Et donc, après 1 Samuel 7, moi, je vais vous proposer de voir Jean 7. Hein, il nous a fait la lecture tout à l'heure. Paul, merci. Hein. Et juste pour introduire, est-ce que vous avez entendu parler de la sécheresse en Californie? C'est quelque chose d'assez spectaculaire, parce que depuis 2011, au fait, il pleut très peu en Californie. Et là, j'ai récupéré des images. Hein, vous voyez ici en 2011, sur la gauche, c'est le lac Folsom, il y a un barrage. Hein, je ne connaissais pas, hein, j'ai trouvé sur Internet, hein, mais peut-être ceux qui ont déjà été là-bas connaissent. Donc, 2011, voilà, on le voit bien plein, il déborde. Et là, 2014, hein. Impressionnant, hein? Et comme ça, il y a plein de photos aussi d'autres endroits où on voit qu'est-ce qui se passe quand il pleut plus, quand il y a, voilà, quand il y a la sécheresse. Et on voit que l'eau est très importante pour la vie, et c'est une image que Jésus utilise dans Jean 7. Et dans Jean 7, au fait, Jésus est à un moment très particulier. Hein, il y a une fête à Jérusalem, elle est en train de se finir. C'est une des fêtes les plus populaires, qui s'appelle la fête des cabanes. En fait, elle a plusieurs noms, cette fête. Vous connaissez d'autres noms de cette fête, hein? Des tabernacles, fête des tentes, Soukot, voilà, pour les connaisseurs de l'hébreu. C'était aussi la fête de la moisson, parce qu'au fait, cette fête-là était pour remercier... Dieu pour la moisson, hein, la moisson du vin, du raisin et des olives. Hein, c'était au mois de vers septembre. Et donc, En fait, il y avait deux choses dans cette fête. Il y avait l'idée de la moisson et il y avait aussi l'idée de se souvenir de comment Dieu avait pourvu aux besoins du peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. C'est aussi pour ça qu'ils se mettaient sous des tentes ou sous des huttes. Donc, c'était la fête la plus populaire, hein. Tout le monde venait à Jérusalem. Ils se construisaient leur petite cabane. C'était un petit peu un camping, hein, camping grandeur nature pendant une semaine. Les gens qui habitaient Jérusalem eux-mêmes, apparemment, ils se mettaient sur les toits de leur maison, ils se construisaient aussi une hutte ou dans leur espace extérieur. Et pendant une semaine, donc il y avait des milliers de gens, il y avait des rituels. Et il y avait un de ces rites bien connus, c'était le rite du puisement de l'eau. Parce que chaque jour, après le sacrifice du matin, donc pendant une semaine, pendant ces 7 jours, il y avait le sacrifice du matin et un prêtre prenait un vase d'or dans sa main, il descendait, suivi de la foule, à la source de Siloé, il y puisait de l'eau qu'il portait au parvis du temple. Les autres sacrificateurs, ils sonnaient des trompettes et des cymbales. Et au milieu des acclamations de la multitude, après, ce qui se passait, c'est que le peuple chantait: vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et alors le sacrificateur montait sur l'autel des holocaustes et il accomplissait une libation, versant du côté de l'Occident l'eau qu'il avait puisée auparavant, qui était dans ce vase d'or. Ça, c'était du côté de l'Orient, pardon, de l'Occident. Et du côté de l'Orient, il y avait une coupe de vin aussi qui déversait. Et à la fin de ces 7 jours, donc le 8e jour même, il y avait un jour très solennel, c'était un peu la clôture, une assemblée cultuelle se réunissait à ce moment-là. C'était le dernier jour. Et c'est probablement ce dernier jour auquel il est fait allusion dans Jean 7. Et peut-être on peut relire, donc Jésus à ce moment-là, et c'est, il choisit bien son moment, hein. Il dit ceci, alors je relis dans Jean 7, 37, les versets que Paul nous a lus tout à l'heure. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et on va simplement voir un petit peu, c'est une promesse hein, finalement. En quoi consiste cette promesse? Comment elle s'est accomplie et comment on peut se l'approprier? Donc, c'est quoi cette promesse? Ben, là, on voit que c'est à la fin de cette fête, il y avait ce rituel de puisement de l'eau. Et Jésus reprend cette image de l'eau en disant: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Alors l'eau, on est dans une société agricole, hein, dans une société aussi où l'eau est très nécessaire, hein, c'est plutôt des contrées assez sèches. Et puis c'est nécessaire pour les récoltes, bien sûr. Alors là, j'ai juste un paysage d'Israël, hein, donc je ne sais pas exactement où il a été pris, hein. Il y a aussi des régions plus désertiques que d'autres, c'est sûr, mais on voit, voilà, ce n'est pas la Suisse, hein, ça c'est sûr, hein, on reconnaît. Et donc, d'ailleurs, c'est David Niblack qui a pris cette photo, les étudiants, j'ai retrouvé ça dans son voyage. Et du coup, on voit l'importance de l'eau, hein, dans ces contrées sèches. On a aussi vu l'importance de l'eau cet été, hein, en Suisse. On a quelques paysans aussi parmi nous. Et puis, on voit que même si c'est plus vert chez nous, on a besoin. L'eau est vitale. Mais Jésus n'utilise pas simplement cette image dans un but agricole. Jésus a autre chose en tête. Parce qu'il dit, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Hein? Il y a une notion, il fait référence à des passages de l'Ancien Testament. C'est difficile de savoir lesquels c'est parce qu'il y en a beaucoup hein, qui parlent d'eau. Mais j'ai essayé de faire une petite compilation de quelques passages. Alors, cherchez pas, hein, je vais simplement les parcourir. Mais qui sont très intéressants en rapport avec la phrase de Jésus. Alors, par exemple, déjà dans Ésaïe 12, pardon, Ésaïe 12, 3, hein, c'est ce qu'il disait pendant la fête. C'est pourquoi avec joie vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Ensuite, Ésaïe, oui, ça vient beaucoup chez Ésaïe, hein, donc Ésaïe chapitre 41, verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Ésaïe 44, 3. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ésaïe 58, 11. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Ésaïe 59, 21. Quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que je fais avec vous. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voilà ce que dit l'Éternel, dès maintenant et pour l'éternité. Et un dernier, Ésaïe 55, 1. Écoutez bien. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voilà, on voit une similitude frappante avec les paroles de Jésus, qui, ce huitième jour de la fête des tentes, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voilà, une promesse. Une promesse où Jésus dit, venez à moi. Cette promesse avait été annoncée. Un jour, je vous donnerai à boire. Un jour, je rendrai vos vies fertiles. Un jour, il y aura l'abondance. Un jour, il y aura la joie. Il y aura l'esprit en vous. L'accomplissement de cette promesse, si on revient à la fête des cabanes, ou des tentes, ou de la moisson, ou soukot, on voit ici que Jésus, il choisit vraiment parfaitement le moment où il fait cette déclaration. Jésus, il est en train de dire à l'assemblée, alors il faut imaginer une foule, hein, ça grouille, il y a de l'effervescence. Il dit à l'assemblée, toutes ces promesses de l'Ancien Testament, Ésaïe, vous vous rappelez, et d'autres endroits encore, elles sont en train de s'accomplir maintenant. Je suis l'accomplissement de tout ce que la fête des cabanes annonçait. Le prophète Ésaïe annonçait des sources où on pourrait boire, et je suis là devant vous, je suis la source. Je suis celui qui donne cette eau. Et c'est aussi un peu comme s'il disait au peuple, vous êtes en train de faire un rite, vous l'avez probablement même un petit peu déjà banalisé, un peu oublié, vous vous dites que c'est des choses à venir, peut-être pour l'ère messianique, en train de puiser de l'eau, de la déverser. D'ailleurs, pour les très attentifs, dans Samuel 7, ils avaient aussi déversé de l'eau hein, quand ils ont retrouvé l'arche et tout ça. Vous faites des rites, vous faites des choses un peu par tradition, mais il y a plus. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir en ce moment. Et le sens de cette fête, il est en train de s'accomplir là, sous vos yeux. Je suis là. Je vous apporte un scoop. Le sens de cette fête s'accomplit en moi. venez à moi. Et le sens ici, profond, là j'arrive déjà dans certaines applications, c'est que Jésus s'approche de nous et il veut que nous venions à lui. Il veut qu'on puisse s'approcher de Dieu. Il veut nous donner son esprit. Il veut nous rendre participants à la nature divine à ce moment-là. Il veut nous apporter sa présence. Et c'est important hein, de se rappeler que Dieu veut nous apporter sa présence. Est-ce que le christianisme, c'est des émotions? Est-ce que le christianisme, c'est une vie sociale? Est-ce que le christianisme, c'est d'être des lumières? Alors oui, tout ça est juste. Mais le christianisme, avant tout, c'est une relation. C'est une présence de Dieu dans nos vies. L'Esprit de Dieu qui nous pénètre. Dieu à l'œuvre en nous. Dieu à l'œuvre en nous. Est-ce que c'est notre expérience? Est-ce que vous êtes dans la même religion que Jésus? Hein? Parce que la religion de Jésus, c'est ça, hein? C'est la présence. La présence de Dieu. Il y a quelque chose ici, hein? C'est pas juste un comportement. L'essence du christianisme, elle est là. Le don de l'esprit. Des vies qui débordent, des fleuves d'eau vive qui coulent. La vie. D'ailleurs, Jésus il dit, je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Tout est là. Et la question qui se pose à nous, c'est comment être en relation avec Dieu, comment être en communion avec lui. Dans l'Ancien Testament, c'était très compliqué. Hein. Si vous avez une bonne culture biblique, hein, vous vous rappelez, on ne pouvait pas voir Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu, sauf à certaines occasions très particulières, une fois par année, dans le lieu très saint, une personne. Moïse lui-même, hein, Moïse. Dieu s'est présenté un peu de dos. Hein, Moïse voulait le voir, et puis il y avait un souffle qui est passé. Voilà, c'était compliqué dans l'Ancien Testament. Hein, même quand Moïse est revenu vers le peuple, à un moment donné, il a dû mettre un voile hein, parce qu'il avait été en présence de Dieu et c'était quelque chose qui dépassait. Dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des barrières. Et ici, Jésus, il est en train de nous dire, je vous apporte la présence de Dieu. Et toujours dans l'accomplissement de cette promesse de l'Ancien Testament, qu'un jour on sera en communion avec Dieu, une communion parfaite, il y a un passage dans Exode 17. Il y a un passage qui parle d'eau. Vous vous souvenez de ce passage? Avec un rocher. Enfin, il y en a plusieurs hein, des épisodes avec un rocher. Mais celui-là, il se passe à Horeb. Et donc, dans Exode 17, au fait, le peuple est sorti d'Égypte. Hein, il a assisté à une grande délivrance de la part du Seigneur. Dieu pourvoit ses besoins. Et à un moment donné, ils ont soif. Le peuple manque d'eau et ils se mettent à râler. Et ce n'est pas juste râler, voilà, on aimerait boire de l'eau, enfin voilà, ce n'est pas juste comme ça. C'est qu'ils sont vraiment amers et fâchés. Ils se disent, mais en fait, on va mourir ici. D'ailleurs, ils en veulent à Moïse. Ils cherchent querelle à Moïse, peut-être même ils veulent le tuer à ce moment-là. Et à ce moment-là, Moïse, verset 4 du chapitre 17, Moïse crie à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » Et l'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. » Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et il avait provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Alors ce passage, il nous enseigne beaucoup de choses. Il nous enseigne déjà que... par rapport, disons, à Jean 7, c'est que Dieu veut nous donner à boire. Là, ils arrivaient dans une mauvaise attitude, c'est clair, hein. Ils murmuraient, ils voulaient tuer Moïse. Et puis Dieu, il dit, frappe, frappe le rocher. Le rocher représente quoi? Le rocher représente Dieu. C'est Dieu qui peut donner de l'eau. Il dit, frappe le rocher. Étonnant, hein? Dieu est tellement saint, il faut frapper le rocher. Frappe le rocher. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle jaillit. Et ça nous rappelle autre chose. Ça nous rappelle qu'un jour, quelqu'un sera frappé, Dieu lui-même, pour que l'eau jaillisse. Et là, il y a l'accomplissement en Jésus. Jésus va être frappé pour que l'eau jaillisse. Et nous, on est identifiés à Jésus. Nous, on aurait mérité d'être frappés à ce moment-là. Les Épîtres nous disent qu'on a été crucifiés avec lui. Et pour récolter sa bénédiction, pour récolter cette eau qui jaillit. Et Jésus est en train de dire à la fin de cette fête, venez à moi. J'ai été frappé ou je vais être frappé, hein, à ce moment-là, ce n'est pas encore tout à fait accompli. J'ai été frappé pour que l'eau jaillisse de toi. Voilà, ça c'est l'accomplissement de la promesse. Et je termine avec le dernier point, et après il y aura encore une petite conclusion, mais comment s'approprier cette promesse? Quelle est la condition? Jésus dit de venir à lui. Hein, c'est ça, hein, la condition. Venez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus s'adresse à tous ceux qui ont soif. Ils peuvent venir à lui. Est-ce que vous avez déjà eu soif dans votre vie? Je parle même de la soif, la bouche sèche. Là, j'ai un peu la bouche sèche là, en ce moment parce que je parle devant vous. J'ai un peu soif, hein, mais ça va. Mais est-ce que vous avez déjà eu vraiment soif? Genre, vous êtes en balade et puis il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau et puis voilà, c'est un peu embêtant, hein. Nous, ça nous est arrivé cet été, on était sur les plages, là, en Côte d'Azur, un coup. Et puis, ma femme et mes enfants, ce sont des spécialistes pour boire des bonnes quantités d'eau, là. Et on avait juste pris 1 litre. Et puis, du coup, voilà, sur la plage, il fait chaud, il n'y a plus d'eau. Donc, moi, je dis, allez, je vais en acheter. Il y avait plein de trucs. Puis je vais au truc, puis ils me disent c'est 6 euros. J'étais là, pardon, de l'eau, hein, je veux pas le cocktail, la vodka, je sais pas quoi, hein, je veux de l'eau. Bon, pour la faire courte, donc j'ai pas acheté de l'eau, je me suis dit je les ai, mais je veux pas dépenser 6 euros pour de l'eau. Et du coup, bon, après, je me suis ramassé les plaintes de tout le monde pendant un petit temps. Et on a été à un magasin quand on est parti, mais là, ils avaient vraiment soif, hein. Enfin, surtout les enfants. Hein. Ma femme, elle s'est comportée comme il faut, comme d'habitude. Mais il y a ce sentiment, parfois, qui nous arrive de soif. Et il n'y a pas besoin forcément de se demander, est-ce que j'ai soif? En général, quand on a soif, on le sait et on a envie de boire. Et au niveau spirituel, on peut aussi parler de soif. Une soif spirituelle intense, qui est différente du fait d'avoir un peu envie. Hein, il y a beaucoup de fois où on a un peu envie de, hein, on a un peu envie de faire du sport, hein, ça fait du bien. On a un peu envie d'avoir des horaires réglés pour se coucher, pour se réveiller. On a envie, il y a beaucoup de choses où on a envie, hein, faire des efforts dans tel domaine. Mais pourtant, si on a juste un peu envie, en général, ça ne marche pas trop. Hein. Mais si on a vraiment envie et si on a besoin de faire du sport, si on a besoin de se coucher tôt, si on a besoin de se lever tôt, là, on va le faire. Et ici, l'invitation de Jésus, c'est de nous dire, si vous avez vraiment soif, hein, vous allez vouloir de l'eau. Quand on a soif, on languit après l'eau. Regardez, j'ai une photo assez impressionnante. Je trouve, enfin, c'est celle-là. Regardez ça. Hein? Cette photo, on peut s'imaginer plein de choses, hein, avec cette photo. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, on est un peu dans un désert ou dans un endroit sec. Il y a quelqu'un qui a plat ventre, manifestement, donc il languit. Enfin, il est vraiment déshydraté. Enfin, je l'imagine comme ça. Et puis Il a soif et là il voit un verre d'eau à proximité. Et puis là il n'est pas en train de se dire voilà, est-ce que je vais boire maintenant, après, je fais une petite sieste, peut-être je le garde pour après. Non, là, enfin voilà, j'ai envie de ce verre. J'ai soif, je vais boire. C'est quelqu'un qui aspire désespérément à avoir de l'eau. C'est une obsession, c'est une question de vie et de mort. Et Jésus dit, quelqu'un a-t-il soif dans sa vie? Quelqu'un a-t-il un besoin? Quelqu'un connaît-il la sécheresse? Et Jésus dit, qu'il vienne à moi et je vais vous donner à boire. Non seulement je vais vous donner à boire, mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive déborderont de lui, couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture. La foi en Jésus, la vraie foi en Jésus, devrait engendrer des fleuves d'eau vive. En nous. Des fleuves d'eau vive qui chassent la sécheresse et le désert. Et pour recevoir ce cadeau que Jésus nous offre gratuitement, il faut avoir soif. Il faut venir à lui et il faut boire. Hein, ça n'a pas l'air très compliqué, hein? On complique souvent les choses, nous, dans nos vies, mais Jésus, il est en train de dire, c'est gratuit, venez à moi. Il suffit d'admettre votre absence d'eau, votre absence de quelque chose. Tout ce que vous avez besoin pour venir à moi, c'est rien. Donc c'est pas mal. Il faut juste admettre le manque. Ceux qui sont en manque peuvent venir à moi. Ceux qui ne sont pas en manque, qui étanchent leur soif à d'autres sources. Bah, continuez, vous ne serez jamais désaltéré. Vous allez boire des choses un peu sucrées, des choses pas très bonnes ou dans le fond, et vous continuerez à avoir soif. Et c'est magnifique de se dire que Dieu veut nous donner à boire gratuitement. Et il veut nous donner quelque chose qui nous désaltère. Le texte dans Jean 7 se poursuit avec les trois réactions et ces trois réactions possibles. Face à ce message de Jésus sur lequel on réfléchit de nouveau aujourd'hui. Je lis à partir du verset 40 dans Jean 7. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Messie. Mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Donc là, on voit en tout cas trois réactions possibles. Les premiers, ils disent, c'est un prophète, c'est quelqu'un de bien, d'intéressant, d'important. Il y a une autre réaction, c'est ceux qui veulent arrêter Jésus. Ils disent, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui nous fait de l'ombre. Et il y a une troisième réaction possible, c'est Jésus comme le Messie. Et finalement, nous, on peut avoir une de ces trois réactions face à Jésus. Qui est-il pour nous? Est-ce que c'est quelqu'un de bien, d'important? Est-ce que c'est un imposteur ou est-ce que c'est le Messie? Alors, chacun peut y répondre pour lui-même, bien sûr. Alors, quel est le lien? Je conclue, hein, c'est ma conclusion. Quel est le lien entre ce passage et le réveil? J'espère que vous avez déjà pu faire quelques liens, mais on va voir ça ensemble. En général, dans un réveil, en tout cas les réveils historiques, ce qu'on constate, donc c'est là où il y a plein de gens qui vraiment se reconsacrent au Seigneur, d'autres qui se convertissent. Ce qui se passe pendant ces réveils, c'est qu'il y a l'action de l'esprit avec puissance. Parfois, ça se démontre d'une façon spectaculaire. Parfois, c'est simplement des élans de prière. C'est aussi spectaculaire, d'ailleurs. C'est une soif de Dieu. Ça, c'est ce qui se passe dans les mouvements, immanquablement dans les mouvements de réveil. C'est l'esprit qui est à l'œuvre. La coupe qui déborde. On l'a vu ça pendant les cellules de maison cette semaine, pour ceux qui ont pu y être, la coupe qui déborde. Et Jésus nous parle ici de fleuves d'eau vive. Et quand on parle de fleuve d'eau vive, ça montre la vie, ça montre de l'énergie, de la force. C'est pas juste de l'eau stagnante, une petite mare hein, qui est un petit peu. Voilà, on n'a pas trop envie de se baigner dedans. De toute façon, il n'y a même pas la possibilité, tellement c'est peu profond. Non, là, c'est un fleuve. C'est quelque chose de. Il y a de la puissance, il y a de la vie, il y a de la force. Et l'esprit veut produire ça dans nos vies. L'esprit veut produire ça dans nos vies. Nous avons besoin de l'esprit pour être réveillés. Et nous avons besoin aussi de cette eau vive pour être réveillés. Un peu comme le matin, hein. Vous faites ça peut-être, hein, pour vous réveiller, vous allez au lavabo, vous prenez de l'eau froide, hein, quand là vous êtes vraiment endormi, là, de l'eau froide, vous frottez le visage. Ou alors vous prenez une douche bien, bien fraîche, là, et ça réveille d'un coup. Et on a besoin de ça. On a besoin de cette œuvre de l'esprit, de cette eau qui va nous réveiller. Et sur cette image de l'eau, il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Ben déjà, l'eau, elle renouvelle. Elle nous fait revivre. Et l'esprit en nous va faire en sorte que ce que je sais en théorie va devenir une réalité dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qu'on sait sur Dieu, non? Je vous regarde et je sais que vous êtes tous des bons connaisseurs de la Bible, vous savez plein de choses sur Dieu. On sait par exemple que Dieu est amour. Voilà, ça c'est une doctrine de base. Mais qu'est-ce que ça signifie pour notre vie? Dans Romains, je vais juste lire ce passage. Donc Romains 5, 5, il y a un verset curieux qui dit: Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire quoi? On sait que Dieu est amour, mais quand il y a le réveil, quand il y a ces fleuves d'eau vive, l'Esprit est en nous, l'amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cet amour ne va pas être un amour égoïste, il va être déversé dans notre cœur. On va aimer Dieu en retour et on va aimer les autres, parce qu'il y a une explosion d'amour. On ne va pas vivre notre vie tranquille, cloisonnée, sans penser aux autres. Non, il y a cet amour, ça devient une réalité dans notre vie. On pourrait multiplier ça sur plein d'autres aspects, hein, de connaissances qu'on a sur Dieu. L'Éternel est mon berger. Voilà, beau psaume 23. Mais à un moment donné, l'esprit peut faire que c'est une réalité. Dans mes circonstances de vie, l'Éternel est mon berger, ben, je suis confronté à des difficultés. Dans ces difficultés, je pourrais soit m'effondrer, soit rester debout. Et là, l'esprit va faire en sorte que, voilà, ben, c'est peut-être la vallée de l'ombre de la mort, c'est peut-être un endroit difficile, mais l'Éternel est mon berger. Et là, l'esprit va nous dire, voilà, je peux confier, il est là devant, j'ai aucun mal à redouter. L'esprit nous fait revivre, l'esprit nous renouvelle. L'eau nous renouvelle aussi. En parlant d'esprit, il y a des moments aussi où l'esprit peut nous saisir et qui nous fait vivre. Gilles a dit le week-end dernier, Weekend Job Senior Plus, on est là pour vivre des moments qui nous dépassent. C'est ça la preuve, aussi une des preuves de l'existence de Dieu, vivre des moments qui nous dépassent. Et je vais juste vous raconter un qui est simple, mais samedi dernier, à ce week-end, avec les jeunes, là, la soirée était finie, hein, 10h30, 11h, là. Et puis, bien sûr, les jeunes, quand la soirée est finie, pour elles commence, en tout cas pour certains. Il y en a qui avaient pris une bûche finlandaise. Hein. Vous savez ce que c'est une bûche finlandaise? C'est une grosse bûche comme ça, où on peut poser un caquelon dessus, et puis on peut faire une fondue en plein air. Voilà, c'était très sympa. Donc, il y a eu la fondue. On avait mangé, hein, bien sûr, déjà, mais là, on recommence. Et puis après, voilà, c'était sympa et tout ça. Progressivement, les uns et les autres vont se coucher. Et à un moment donné, on était encore une poignée, là, on était 6-8. Et puis il y en a un qui a dit, ah, on pourrait chanter, tout ça. Et donc on se met à chanter, et des chants, bien sûr, chrétiens. Et puis on continue à chanter, un autre propose, un autre encore, on complète nos paroles, hein, parce que tout de tête, ce n'est pas toujours évident. Et comme ça, il y a 1h30 qui est passée. Et puis à la fin, on termine avec un moment de prière. Et c'était beau, hein, c'était beau. Rien n'était préparé. Et dans ce moment de prière, tout le monde était reconnaissant. Voilà, merci Seigneur, tu nous as fait vivre quelque chose de beau ce soir. Merci pour ce moment-là. C'est l'esprit qui nous permet de faire ça. Voilà, simple, hein. L'eau renouvelle, nous fait revivre. L'eau, elle nettoie aussi. Hein, je pense que vous le savez. on le voit dans les cellules de maison, hein, avec ce livre « Le chemin du calvaire », hein, cette importance de revenir à la croix pour être purifié, enlever les obstacles au réveil. Et donc l'eau, elle va nettoyer des choses dans nos vies. Hein, puis là, chacun peut répondre pour lui. Il y a un problème au fait, et ça me pose question aussi, même pour ma propre vie, quand on ne change pas. On est chrétien, on ne change pas. L'eau, l'esprit devrait nous permettre de changer, d'évoluer. J'espère que dans 10 ans, on ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui. Ce serait triste. Je ne parle pas physiquement, hein, comme pour Myriam, hein, tout à l'heure. Je parle dans notre sainteté, dans notre sanctification, dans notre vie avec le Seigneur. Si dans 10 ans, je suis toujours aussi susceptible que je le suis aujourd'hui, ça veut dire que l'œuvre de Dieu dans ma vie, ben voilà, il y a encore pas mal de résistance. Si dans 10 ans, je suis toujours aussi inquiet, je suis toujours aussi colérique, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas encore toute la place dans ma vie. Et j'espère qu'on puisse progresser dans nos vies. Parfois on entend, ouais, mais il a toujours été comme ça. Mais ça, c'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est que l'esprit vient en nous et va amener la vie. Là où il y a la sécheresse, là où il y a encore des liens, parfois avec l'ennemi, là où il y a des choses qui sont pas réglées, Dieu il dit, mais moi je t'amène l'eau, hein, je vais tout nettoyer là. Et c'est un encouragement pour nous à se laisser nettoyer. Et c'est là où on voit aussi le réveil. Et puis finalement, l'eau aussi, elle s'écoule. Elle s'écoule dans une direction. Et ici, Jésus dit, des fleuves d'eau vive vont jaillir de vous, vers l'extérieur. Et il y a aussi une dimension, quand il y a la vie, ça jaillit vers l'extérieur. On en témoigne, on en parle, on le vit. Et c'est pour ça que je suis tellement reconnaissant, hein, pour cette soirée calendrier, hein, magnifique, hein, ce vendredi. C'est une lutte au début, et après, quand on est devant les gens, on leur dit... Moi, la réponse, j'ai le plus entendu, je ne suis pas trop intéressé. Ils étaient polis, les gens. Et puis, donc je leur posais la question, est-ce que vous êtes croyant? Puis beaucoup disaient non. Et puis, je leur disais, mais pourquoi? Et puis, les gens étaient un peu empruntés face à cette question. Et puis, je disais, mais c'est dommage. Enfin, moi, je suis pasteur, donc c'était mon point d'accroche. Je suis pasteur et je sais que Dieu veut vous donner une vie, une belle vie. Il vous aime. Et là, moi, je méditais déjà ces Jean 7, hein, vendredi soir. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose. En fait, l'esprit en nous doit jaillir et doit montrer que le christianisme, c'est la vie et c'est quelque chose de beau. Dieu nous aime, Dieu veut faire une œuvre en nous. J'ai dit que j'étais à la conclusion et c'est vrai, hein, je termine. la question un petit peu de fin, elle est un petit peu toute simple, c'est de se dire, il y a une invitation, Jésus nous fait une invitation, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai à boire. Peut-être vous n'êtes jamais venu à Jésus, et si vous n'êtes jamais venu à Jésus, hein, c'est l'occasion, hein, c'est l'occasion qui est là, de venir dans sa présence. Peut-être que vous vous sentez tout sec aussi, ça c'est la deuxième catégorie. Alors revenez à Jésus. Hein, on a besoin, hein, comme en Californie, il y a besoin de nouveau de pluie, il y a besoin d'eau de nouveau. Et c'est un encouragement pour vous qui êtes déjà venu à Jésus, de retourner à Jésus. Et de venir boire et que ces eaux vives reviennent. Et Jésus, on croit qu'il est au milieu de nous et il va planter en nous, hein, c'est un petit peu ses sources d'eau. Peut-être au début, ce sera des petites filets d'eau. Et progressivement, on prie pour qu'il y ait vraiment ces fleuves d'eau vive qui viennent. Et qu'on puisse persévérer aussi sur ce chemin-là. Et une promesse aussi, c'est que Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Il veut frayer des chemins nouveaux, hein, dans ton cœur, dans ton désert, dans ta lassitude peut-être. On l'a chanté tout à l'heure, comme soupire une biche après un courant d'eau. Et ben, toi aussi, oh mon Dieu, enfin voilà, etc. Et puis, il veut nous donner ce fleuve. Il veut nous donner ce fleuve. Dans la sécheresse, parfois, de nos vies. Restaurer ce qui avait été séché, ce que Satan avait détruit, et que l'eau revienne. Cet été, on était à Eisenflou pendant un bivouac, hein, donc une excursion où on dort dans une maison ou sous tente en altitude. Et puis, on arrivait à un endroit, donc c'était la Rothstockhütte, ça s'appelle, c'est tout près du Schiltorn. Et puis, il y avait une espèce de pont qui traversait une rivière, mais sauf qu'il n'y avait pas d'eau. Étonnant en montagne. Hein. Mais comme c'était la sécheresse, il n'avait pas plu depuis longtemps, donc on arrive à la cabane, et puis là, il pleuvinait à ce moment-là. Et puis la dame, elle nous dit, voilà, on a peu d'eau, faut être un peu rationné, il y a ici un peu les pichets, vous pouvez vous servir, etc. Mais il faut faire attention. Et donc après, on prend le repas, et tout d'un coup, on entend un grondement. Donc dehors, il pleuvait. Et on va voir dehors, et c'était quoi? C'était cette rivière, et c'était rempli d'eau. Ah, d'ailleurs, j'ai une photo. Enfin, j'ai la photo d'avant. Malheureusement, j'avais pas prévu d'utiliser cette illustration aujourd'hui. Mais... Donc ici, on voit la rivière, là. Ça, c'était le lendemain matin, donc il faisait beau, de nouveau, elle était de nouveau à sec. Donc on voit, là, ça, c'est le lit de la rivière, qui est à sec. Mais quand il a plu... Je vous promets, hein, il y avait un énorme bruit, un vacarme. On a été voir, il y avait plein, plein d'eau qui descendait. C'était assez spectaculaire. Et ça m'a fait penser à ça dans nos vies. Hein. On peut être parfois à sec, mais Dieu veut nous remplir de cette eau. C'est le réveil, mes amis. On prie ensemble encore? Et je vous invite à la fin de cette prière, si c'est votre désir vraiment de dire un Amen à haute et intelligible voix, hein, si devant le Seigneur il l'entend et aussi les frères et sœurs. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci pour ce discours finalement assez court de Jésus. Quand il s'est levé et à la fin de cette fête et qu'il a fait cette déclaration vraiment, vraiment forte, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et je donnerai mon esprit. Et Seigneur, maintenant, ce matin, nous voulons aussi déclarer devant toi, admettre devant toi que nous avons besoin de toi. Et personnellement, j'aimerais dire que j'ai vraiment une grande soif. Toi seul peux me satisfaire, combler mes vides. Et je te prie d'irriguer ma sécheresse. Je veux avoir soif de toi plus que de toute autre chose. Je veux que des fleuves d'eau vive jaillissent de moi, selon ta promesse, et de nous. Au nom de Jésus. Amen.